Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par le Centre Chrétien d'Impact, ou ICC, Impact Christian Center. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifié, encouragé, transformé et propulsé comme une flèche vers votre destinée en Christ. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au 33 1 46 70 52 31 ou à l'adresse email suivante contact@icc-paris.org. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. May God bless you.
Matin de différents horizons, de différents lieux, pas pour un homme, pas pour une église, pas pour une dénomination, mais nous sommes venus à la rencontre de l'Éternel. Nous ne sommes pas venus ici pour écouter, Seigneur, un homme partager ses opinions. Nous sommes venus pour écouter la parole du royaume, la parole du roi. Et nous prions ce matin, Seigneur, en dépit de nos défaillances, en dépit de nos manquements, de nos carences, nous prions que tu nous fasses grâce. Que là où nos manquements avaient abondé, que ta grâce surabonde. Nous prions que tu nous parles ce matin, que tu lances ta parole comme un javelot et qu'elle renouvelle véritablement notre mentalité, qu'elle change notre perception de nous-mêmes et de notre futur, qu'elle imprime simplement en nous l'image que tu veux imprimer, Seigneur. Qu'elle fasse de nous, Seigneur, les personnes que tu nous appelles à être. Inspire ta parole, s'il te plaît. Inspire ta parole ce matin. Nous promettons, Père, de te rendre toute la gloire et de ne rien garder pour nous. Dans le nom puissant de Jésus. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Et ce matin, nous disons, Seigneur, que ton règne, ta souveraineté, ton influence, ta prééminence, ta domination soient établies dans nos cœurs, établies dans cet endroit. Que les portes de ICC élèvent leur linteau pour laisser entrer le roi de gloire. Qui est le roi de gloire? C'est le Seigneur fort et puissant, redoutable dans les combats. Jésus de Nazareth est son saint nom. Fais ton entrée et règne maintenant dans nos vies, esprit, âme et corps. Règne, Seigneur. Manifeste ta souveraineté dans nos vies, promettant de te rendre toute la gloire. Merci de ce que personne ne sortira d'ici comme il est entré, Seigneur. Parce que tu as forcément, nécessairement, une parole pour nous ce matin. La Bible dit qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Tu envoyas ta parole et elle les fit échapper de la fosse. La force de la confusion, la force du désespoir, la force de l'abandon, la force de la misère, la force de la maladie, la force de la pauvreté. Tu envoyas ta parole et ta parole les fit échapper de la force des limitations, des préjugés, des clichés qui avaient emprisonné la destinée de ton peuple, Seigneur. Alors que le monde attend avec un ardent désir et un profond soupir la manifestation visible des fils de Dieu, accorde-nous la grâce, Seigneur, d'être dans le processus de manifestation de nos destinées. Pas pour nous, mais pour toi, pour ta seule gloire. Merci de ce que ce matin, tu le fais infiniment abondamment, au-delà de ce que nous te demandons ou nous pensons, par ta puissance qui agit en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous t'avons prié. Amen. Amen. God bless you, expression impact. Merci. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Amen. Juste pour finir sur la prière, l'anecdote qui me revient, que je n'ai pas dit tout à l'heure. Une fois, il y a quelques années en Afrique du Sud, il y a des personnes qui se sont rassemblées. Il y a tous les clans de féticheurs, de marabouts, de satanistes qui se sont réunis. C'est une histoire vraie. Elle a eu lieu en Afrique du Sud il y a plusieurs années de cela. Ils se sont réunis et ils ont décidé de prier pendant 40 jours pour invoquer la puissance du diable. Quelqu'un me dira, ça n'a pas d'effet. Vous devez comprendre une chose, c'est que Satan, il a quand même quelque chose qu'il peut utiliser encore. Et vous devez comprendre... Oui, non, pardon, je continue cette anecdote. Et ils se sont décidés à prier pendant 40 jours. Vous devez comprendre une chose, c'est que le jeûne et la prière disposent, elle affaiblit notre chair et elle nous rend sensible au monde spirituel. Le jeûne et la prière me rend sensible au monde de l'esprit. Alors si je prie et je jeûne en cherchant l'Éternel, je deviens sensible au Saint-Esprit. Mais si quelqu'un prie et jeûne en cherchant le diable, il devient sensible au diable. Et les satanistes ont jeûné pendant 40 jours. Et pendant qu'ils jeûnaient pendant 40 jours, la plupart des chrétiens dans les églises étaient en train de rire. Et au bout de 40 jours, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une telle puissance satanique qui s'est déclenchée dans la région que 80% des églises de cet endroit, de cette région, 80% des églises, donc 80% des églises, pardon, les pasteurs sont tombés dans l'adultère. Je dis ça juste pour réveiller un peu notre esprit et pour ne jamais sous-estimer, ne jamais prendre à la légère les choses de Dieu. Dis à ton voisin, levons-nous et prions. Que quelqu'un dise amen. C'est important de ne jamais sous-estimer. C'est un tacticien, mais il est vaincu au nom de Jésus. Aujourd'hui, je vais vous parler, je vais commencer avec vous une série d'enseignements intitulé « La bénédiction de l'Éternel ». Nous allons voir son but, ses effets, ses conditions, ses obstacles. Cette série, vraiment, je suis convaincu, va nous faire beaucoup de bien. Dis à ton voisin, « La bénédiction de l'Éternel ». Voyez-vous, la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas. Et tant que nous ne comprenons pas, nous ne pouvons pas nous les accaparer. Nous ne pouvons pas les vivre et les rendre manifestes dans nos vies. Voilà pourquoi Paul, dans Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16 à 18, jusqu'au verset 20 même, Paul prie, il dit, je prie que Dieu illumine les yeux de vos cœurs, qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Dis à ton voisin qu'il illumine les yeux de nos cœurs. Qu'il illumine les yeux de nos cœurs afin que nous sachions, nous connaissions quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous connaissiez quelle est la richesse de la gloire, de l'héritage qu'il a déposé en vous. Qu'il illumine les yeux de vos cœurs afin que vous sachiez quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance. Mais il faut qu'il illumine les yeux de vos cœurs parce que si les yeux de vos cœurs ne sont pas illuminés, vous ne le comprendrez pas. Et si vous ne le comprendrez pas, vous ne l'expérimenterez pas. C'est aussi, la Bible dit dans 2 Pierre chapitre 1 au verset 3, sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mais au travers de la... De la connaissance. Sa puissance divine m'a donné tout. Mais c'est au travers de la connaissance. Si je n'ai pas la connaissance, je ne peux pas entrer dans ce que Dieu veut me communiquer. Alléluia. Et avant de commencer le thème sur la bénédiction de l'Éternel, je vais d'abord faire une mise au point et vous mettre en garde et me mettre en garde moi-même. Parce que le plus grand ennemi de la parole de Dieu, ce n'est pas le diable. Bien sûr que le diable essaie de voler la parole. Le plus grand ennemi de la compréhension, plutôt, je dirais. Le plus grand ennemi de la compréhension de la parole, c'est la tradition. Ouvrons nos Bibles à Matthieu, Marc chapitre 7. Marc chapitre 7, verset 5 à 13. Je vais le lire rapidement. Marc chapitre 7, verset 5 à 13. Le plus grand ennemi, le plus premier obstacle, le plus grand ennemi de la compréhension de la parole, c'est la tradition. La tradition. Verset 5. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? Jésus leur répondit, hypocrite, Isaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère. Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Lorsque je parle de tradition que nous avons établie, je ne parle pas de rituel, de liturgie, de cérémonie. Lorsque je parle de tradition ici, lorsque je dis que le premier ennemi à la compréhension de la parole, c'est la tradition, je parle de ces compréhensions traditionnelles que nous avons des fois de la Bible et que nous avons souvent pris dans l'environnement où nous avons grandi. Par exemple, la plupart des gens vous diront, je ne comprends pas pourquoi Dieu n'agit pas. Pourtant, Dieu peut tout faire. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur, qu'est-ce que tu attends? Tout est possible pour Dieu. Non, parce qu'en réalité, ça, ce n'est pas vrai. Parce que la Bible dit que tout est possible avec Dieu et pas pour Dieu. Que quelqu'un dise avec Dieu.
Voyez, mais la plupart des gens ne comprennent pas que Dieu ne peut pas tout faire. En réalité, potentiellement parlant, Dieu peut tout faire. Mais Dieu a établi, la Bible dit dans Psaume chapitre 115, au verset 15 à 16, que Dieu a donné la terre aux êtres humains. Ça veut dire qu'il y a des choses sur la terre que Dieu ne peut pas faire parce qu'il n'est pas le représentant légal. Il n'est pas celui qui a le mandat légal d'opérer sur la terre. Voilà pourquoi lorsque Dieu veut se mouvoir sur la terre, il est obligé de passer par quelqu'un. Il est obligé d'avoir une personne qui lui dit, Père, qui est notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est obligé d'avoir quelqu'un qui l'invite. Parce que si personne ne l'invite, il ne peut pas se déployer. Si tu ne l'invites pas dans ta famille, il ne peut pas agir dans ta famille. Si tu ne l'invites pas dans ton foyer, il ne peut pas agir dans son foyer. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, Dieu cherche. Je cherche des adorateurs, des vrais adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Je cherche un homme, une femme qui se tienne à la brèche et qui élève un mur en faveur de ce peuple. Je cherche quelqu'un parce que je veux agir. Je veux intervenir, mais si je n'ai personne, je n'interviens pas. Parce que vois-tu, la vérité, c'est que même dans notre monde d'aujourd'hui, parce que des fois, ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui nous permet de comprendre des réalités spirituelles. Même dans le monde d'aujourd'hui, si tu es le PDG d'une entreprise, si tu étais le PDG et que tu confies la gestion de l'entreprise à ton fils, tu n'as plus le droit de signer les chèques à sa place. Tu n'as plus le droit de faire des opérations à sa place. Tu es obligé d'avoir son autorisation et c'est toi qui dois signer le carnet de chèques. C'est lui qui doit signer, pardon, le carnet de chèques à ta place. Que quelqu'un dise amen. Juste question de bon sens. Quand quelqu'un est gérant, même si c'est toi, même dans le monde de l'entreprise, même quand c'est toi l'actionnaire majoritaire que tu contrôles tout, c'est le gérant qui a la signature. Dieu a donné la gestion, l'administration, le gouvernement de la terre à l'être humain. Il ne peut pas agir sans moi et sans toi. Il a besoin de quelqu'un. Donc, ne dis pas tout est possible pour Dieu. C'est potentiellement vrai, mais ce n'est pas exact. Dieu a besoin de quelqu'un. Et ça, c'est des perceptions qu'on doit changer. On passe souvent beaucoup de temps à crier, Seigneur, pourquoi? Dieu dit, est-ce que tu m'as permis d'agir? Est-ce que j'ai pu trouver en toi un canal par lequel je peux me mouvoir pour agir dans ta famille, pour agir dans ta vie? Et une autre mauvaise compréhension de la parole de Dieu qui vient souvent de la religion, mais qui n'est pas exacte. C'est le concept selon lequel tout le monde vous dit aujourd'hui que nous croyons souvent que croire en Dieu, c'est croire en son existence. Alors vous avez des statistiques et des sondages qui vous disent 40% des Français croient en Dieu. 60% des Français croient en Dieu. 60% des Américains ou des Européens disent croire en Dieu. Ce n'est pas exactement ça. Parce que croire en Dieu, en réalité, ce n'est pas croire en son existence. Parce que la Bible nous dit que la foi sans les œuvres est morte. La foi sont les œuvres et vaines. Ça veut dire que croire en Dieu, je dois un peu ajuster ma mentalité. Parce que croire en Dieu, ce n'est pas être conscient du fait que Dieu existe. Ça, c'est le savoir. Ce n'est pas la foi. Croire en Dieu, c'est être d'accord avec Dieu. C'est adhérer à Dieu. Pour adhérer à ce que quelqu'un dit, tu dois déjà savoir ce qu'il dit. Et ensuite, quand tu sais ce qu'il dit, tu dois marcher selon ce qu'il dit. Ça, c'est croire. Tu ne peux pas me dire que tu crois en Dieu et puis vivre toujours ta vie d'indépendance et d'autonomie dans la fornication, dans l'adultère. Tu dis crois en Dieu. Croire en Dieu, ça veut dire être d'accord avec Dieu, parler le même langage que Dieu. Que quelqu'un dise amen. La foi sont les œuvres vaines. Alors voyez-vous, vous rencontrez souvent des gens qui vous disent bon, moi je crois en Dieu, mais je ne pratique. Je suis croyant, mais je ne pratique pas. C'est une aberration, c'est une stupidité. Tu ne peux pas croire, ne pas pratiquer. Ça, c'est la conception, la compréhension traditionnelle qui risque de se heurter et de s'opposer à ce que la Bible dit véritablement. Voilà pourquoi lorsque je vous parle de la bénédiction de l'Éternel, je fais cette introduction juste pour nous rendre un peu prudents et nous apprendre à aller sonder la parole pour savoir ce que dit véritablement la Bible sur la bénédiction de l'Éternel. Que quelqu'un dise la bénédiction de l'Éternel. À ce stade, vous devez comprendre qu'il y a une nette distinction entre une bénédiction, que quelqu'un dise une bénédiction, et la bénédiction, que quelqu'un dise la bénédiction. Oh, il y a une énorme différence, parce que dans la société contemporaine, nous avons tendance à mesurer et à évaluer la bénédiction en fonction des possessions, en fonction des richesses, en fonction de tellement de critères, en fonction aussi peut-être souvent, notamment à l'époque coloniale, mais ça arrive encore aujourd'hui dans certaines sociétés, du nombre d'enfants. Plus tu peux pondre des enfants comme on pond des œufs, plus tu es béni. C'est une bonne chose d'avoir des enfants, mais ce n'est pas ce qui permet de mesurer le degré de bénédiction de quelqu'un. Quelqu'un dit amen. Alors aujourd'hui, je vais simplement faire l'introduction sur la bénédiction de l'Éternel et déjà nous amener à comprendre la raison pour laquelle j'ai à cœur cet enseignement, c'est parce que tant que nous n'aurons pas compris certains concepts du royaume de Dieu, il y a des choses, tant qu'elles ne sont pas bien installées à l'intérieur de nous, Dieu ne peut pas se manifester dans nos vies. Ce n'est pas qu'il ne veut pas. Voyez-vous, Dieu voit tout, Dieu sait tout, mais je me suis rendu compte que le travail que le Saint-Esprit fait avec nous, c'est de changer l'image qu'il y a à l'intérieur de nous-mêmes. Que quelqu'un dise image. Changer la photographie ou encore le portrait, la photo, l'image que j'ai, afin que son image devienne mon image, que sa vision devienne ma vision, que sa perception devienne ma perception, que sa mentalité devienne ma mentalité. Parce qu'en réalité, la foi, ce n'est que le fait de voir ce que Dieu voit et de marcher sur la base de ce que Dieu voit. Et lorsqu'on parle de voir, on parle de voir quelque chose. La foi n'est pas aveugle, la foi voit une image. Et je me suis rendu compte, il y a une sœur qui avait, j'ai pas lu une sœur, il y a une sœur qui a un problème sérieux au pied, elle ne peut pas marcher, elle est handicapée depuis plusieurs semaines. Elle me dit, je prie le Seigneur, je prie, j'ai la foi que vraiment que Dieu va agir. Et je lui ai posé une question simple. Je lui ai dit, lorsque tu fermes les yeux, est-ce que tu t'imagines en train de courir? Aujourd'hui, tu ne peux pas marcher. Mais lorsque tu fermes les yeux, est-ce que tu te vois en train de courir? Parce que si tu ne te vois pas en train de courir, tu ne marcheras pas. Oh, que quelqu'un dise amen. Vous voyez, la foi, ce n'est pas juste dire « je crois, je crois, je crois ». Non, la foi voit quelque chose. Il y a une image que Dieu doit mettre. Tu vois, tu ne peux pas toujours avoir de toi cette image de « tu as peur d'échouer, tu as peur de ne pas te marier ». Il y a des gens qui veulent se marier, mais qui sont tous les jours conduits par la peur de ne pas se marier. Alors tu te lèves le matin, tu m'appelles une sœur qui se lève le matin. Dès qu'elle se lève le matin, sa première pensée n'est certainement pas pour le Saint-Esprit, n'est certainement pas pour Jésus-Christ. Sa première pensée, c'est pour le diable. « Au nom de Jésus, Satan, je t'arrache mon mari !» Tu n'as même pas encore dit « Bienvenue Saint-Esprit, je suis dans ta présence, remplis-moi de puissance, viens et vis en moi. » Tu n'as même pas encore dit ça. Ta première pensée c'est « Au nom de Jésus, Marie de nuit, Satan, je t'arrache mon mari. » Ça devient une oppression qui tourne à l'obsession démoniaque. Ne baisse pas la tête, je ne parle pas de toi. Que quelqu'un dise « Amen ». On dit à ton voisin, on dirait que si quand même qu'il parle de toi. Tu vois, tu ne peux pas vouloir te marier et puis en même temps toujours être stressé, avoir peur. Non. Est-ce que tu vois? Est-ce que tu te vois ce jour-là, solennel? Bon, je sais que les femmes, ça là, vous voyez ça trop même, trop. Elles voient trop même. C'est pour ça que lorsqu'elles veulent se marier et qu'on leur dit de réduire le budget, de ne pas trop dépenser de l'argent, elles disent non, on ne se marie qu'une seule fois. Ma robe doit coûter 5000 euros. Ah, 5000 euros, là, on n'a pas 5000 euros. Tant pis, c'est juste une seule fois. Aïe, aïe, aïe. À force d'avoir joué avec Barbie, les hommes ont les plus grands challenges aujourd'hui. Parce que nous, voyez-vous, quand nous sommes petits, nous ne jouons pas avec Barbie. Nous jouons avec les jouets, avec les... Et puis les femmes, elles me disent, ah, ça va, Ken? Qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Nous avons une fille de 5 ans qui, dès qu'il y a un mariage, elle veut aller à la soirée, elle veut mettre sa robe blanche. Et je sens pointer des problèmes à l'horizon, mais ils sont vaincus au nom de Jésus. Que Dieu ait compassion de son peuple que nous sommes. J'ai dit quand le pasteur il parlait tout à l'heure, il parlait de comment sa femme a souffert. Je me disais quand même, Seigneur, j'ai dit, Seigneur, vraiment, tu sais, tu as fait le bon choix en faisant de moi un homme quand même, des fois. Juste comme ça, je pense. Et que Dieu bénisse les femmes, alléluia. Que quelqu'un dise amen. Donc je vous disais qu'il y a une grosse distinction entre la bénédiction de l'Éternel et une bénédiction de l'Éternel. La première différence, c'est qu'une bénédiction... Une bénédiction peut venir de n'importe qui. Elle peut venir de Dieu, elle peut venir d'un homme. Une bénédiction peut venir de n'importe qui. Beaucoup de gens reçoivent une bénédiction d'une personne. Je vais donner l'exemple, par exemple, quelque chose qui me choque, des chrétiens, des fois, qui soient pasteurs, serviteurs, soi-disant de Dieu ou pas. Mais je vois beaucoup de gens qui reçoivent de certains leaders politiques ou de certaines personnes qui ont une capacité financière très, très importante, qui reçoivent quelque chose et puis qui bizarrement changent de comportement. Parce que c'est triste à dire, mais je vous assure, nous sommes dans une génération où avec un peu d'argent et un peu de promesses de pouvoir, on arrive à tordre la foi de quelqu'un et il arrive à se prosterner devant celui qui a été, celui qui l'a béni. Ce qui me choque, c'est pas ça. Ce qui me choque, c'est lorsqu'il vient devant le peuple et il dit, Dieu m'a béni, j'ai la bénédiction de l'Éternel. Non, c'est pas la bénédiction de l'Éternel, c'est la bénédiction de cette personne. Parce que, à quoi est-ce que je le reconnais? C'est que, il y a des fois, quelqu'un te bénit et puis tu n'arrêtes pas de te prosterner. Tu es capable de renoncer à ton intégrité, de renoncer à la droiture, à la justice de Dieu, juste pour continuer d'avoir un accès privilégié. Il y a quelqu'un qui écoutera ce CD. Peut-être toi, tu ne comprends pas de quoi je parle parce que pour l'instant, au niveau de la vie, tu es encore en bas. Mais au fur et à mesure que tu monteras, tu te rendras compte que tu auras certaines tentations qui viendront à toi et qui essaieront de te compromettre, de compromettre tes valeurs et de compromettre ta foi. Peut-être qu'aujourd'hui, tu n'en es pas encore là. Mais vis encore un peu et puis reste à ICC parce que demain, tu es obligé de monter de toutes les manières. Et lorsque tu monteras, tu verras que tu auras un autre type de tentations qui viendront à toi. Lorsqu'on te remettra des sommes d'argent, lorsqu'on te promettra une grosse somme d'argent, on te promettra par exemple de multiplier ton salaire par 3 ou par 4. Et est-ce que tu sauras dire encore non, non, je suis dans mon église, je dois servir le Seigneur tous les dimanches, je dois être dans mon église, je refuse de prendre un travail qui me fait bosser tous les dimanches. Je préfère rester là où je suis pour l'instant en attendant de voir ce que Dieu a de mieux pour moi plutôt que de me compromettre et puis de dire non, je suis obligé de travailler tous les dimanches. Je ne dis pas quelques dimanches, mais si tu dois travailler tous les dimanches, tous les samedis, du mardi au lundi, tu n'as plus de temps pour Dieu, tu n'as plus de temps pour la communion fraternelle. Tu vois, ça veut dire que quelque part, ne dis pas c'est Dieu qui m'a béni. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel, c'est une bénédiction de ton employeur, ce n'est pas de Dieu. Parce que la bénédiction de l'Éternel ne te rend pas confus. Parce que lorsque la bénédiction de l'Éternel est sur ta vie, je te garantis que la bénédiction de l'Éternel ne vient pas d'un homme. Elle peut passer par un homme. Mais comme son nom l'indique, bénédiction de l'Éternel, sa source, c'est l'Éternel. Et lorsque c'est la bénédiction de l'Éternel qui vient sur ta vie, tu es reconnaissant au Seigneur pour le canal par lequel il est passé, mais tu continues d'adorer le Créateur et tu n'adores pas la créature. Que quelqu'un dise Amen. Je prie seulement, Seigneur, ne me laisse jamais avoir ce genre de mauvais témoignage. Ne laisse jamais mon intégrité, ne laisse jamais mes valeurs en toi être compromises juste à cause d'une bénédiction d'un homme. Là, une bénédiction, on peut provenir de n'importe qui. Mais la bénédiction ne vient jamais de n'importe qui, elle ne vient que de Dieu seul. Que quelqu'un dise Amen. La deuxième chose, c'est que beaucoup de gens se battent dans la vie et courent après une bénédiction. C'est facile à voir. Je me suis rendu compte que même malheureusement dans le milieu chrétien, vous avez beaucoup de gens qui pensent qu'ils se battent pour la bénédiction de l'Éternel, mais ils se battent pour une bénédiction. Et à quoi vous reconnaissez ça? Et Dieu lui ouvre une porte et puis il ne veut pas emmener les gens. Il veut pas. C'est-à-dire qu'il a un accès, il a une opportunité, il a un contact. Peut-être quelqu'un d'autre en a besoin, mais il faut surtout pas que les autres découvre que je connais telle personne, parce que si jamais quelqu'un d'autre sait que je connais cette personne, il risque de prendre ma place. Ou alors si Castanova là-bas, oh là 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 là, ça, on risque de moins me voir. Ouais, toi, ça c'est parce que tu cherches une bénédiction. Quand tu as besoin d'écraser les autres, tu essaies de voler le mari de la sœur, enfin le fiancé de la sœur. Ça c'est tu cherches une. Ce n'est pas la bénédiction. Tu cherches une bénédiction parce que pour une bénédiction, les gens font beaucoup d'efforts. Ils courent, ils déploient beaucoup d'énergie. Ils essaient d'écraser les autres. Ils essaient d'attirer l'attention des autres. Tu vois, je fais partie peut-être de cette rare génération qui est convaincue que, vous savez, en Christ, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Il y a juste besoin d'apprendre à élever l'Éternel, à honorer l'Éternel. Et je suis convaincu que, tu sais, quand tu élèves l'Éternel, la Bible dit que lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai les âmes à moi. C'est pour ça que lorsque ICC Masquoi a fait ses cancers, fait les cancers gospel, de temps en temps, vous allez vous rendre compte que jamais vous allez voir, on distribue des flyers de l'église en disant, alors aujourd'hui, vous savez, ICC, donc, vous êtes venus nombreux, vous êtes plus de 1000 personnes. Sachez que derrière cette chorale, il y a une église qui s'appelle ICC. On n'en a rien à faire. Ce n'est pas l'objet là. Non, ce n'est pas l'occasion de faire ça. Les gens viennent de tous horizons. Il y a des chrétiens qui viennent d'autres églises. Pourquoi veux-tu qu'on s'abaisse à vouloir attirer la couverture sur soi? Il faut qu'on connaisse ICC. Ça, c'est parce que tu cherches une bénédiction. Mais laisse-moi te dire une chose. Je suis convaincu que lorsque tu sers véritablement mon Dieu, tu n'as pas besoin de tout cet attirail là. Tu n'as pas besoin de ça. Or, que quelqu'un dise Amen. Hey, c'est des choses qui me dérangent. C'est pour ça que des fois, il y a des églises qui vont nous solliciter pour faire un programme ensemble. On ne s'associe pas. Je ne vous cache pas. On ne s'associe pas. Pourquoi? Parce que tu sens que les gens sont en train de lutter pour ouvrir des portes. Je ne lutte pas pour ouvrir des portes. Pasteur Castanou, quand est-ce que tu iras en Guyane? Écoute, j'irai en Guyane si Dieu permet que j'aille en Guyane. Non, mais si tu appelles des gens, on t'entend sûrement sur Internet, on t'entend à la radio. Si tu appelles quelques églises, peut-être que quelqu'un va t'inviter. J'ai dit, écoute, je ne suis pas du genre à faire des appels du pied, à forcer pour dire, regardez-moi, je veux être là. Je n'ai pas besoin de ça. Je reste dans mon coin, j'adore l'Éternel et quelqu'un. Et en s'entendant, il fera ce qu'il a à faire. Que quelqu'un dise Amen. Tu vois, quand tu as la mentalité de la bénédiction de l'Éternel, tu n'es pas dans ce registre. Mais quand tu as la mentalité de une bénédiction de l'Éternel, ça vient tellement de manière rare et sporadique de temps en temps que dès que ça arrive, ouh, là, il faut absolument que je l'attrape. parce que tu as peur de ce que ça ne revienne pas. Tu vois, ça c'est une mentalité de pauvreté. Je ne parle pas de toi, baisse la tête. Ton voisin, toi tu peux lever la tête, il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens se battent dans la vie et courent après une bénédiction. Mais ce que j'aime avec la bénédiction de l'Éternel, c'est qu'on n'a pas besoin de se battre pour elle, parce que la Bible dit que c'est elle qui court après toi. La bénédiction de l'Éternel poursuit. Deutéronome chapitre 28, verset 1 à 14, la Bible dit: voici les bénédictions qui se répandront sur toi et qui s'empareront de toi, qui te poursuivront. Oh, que quelqu'un dise la bénédiction poursuit. Tu vois, la bénédiction de l'Éternel, ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, elle poursuit. Des fois, tu en as marre, tu dis: Seigneur, là, tu vois, je suis vraiment rassasié, je suis comblé. Seigneur, là, je te rends grâce. Tu vois, il n'y a plus de place pour mettre. Seigneur, attends. Mais tu vois, ce que j'aime avec la bénédiction de l'Éternel, c'est que la Bible dit dans Deutéronome 28, je crois au verset 6, hein, l'Éternel ordonnera, pas à une bénédiction, mais à la bénédiction. Que quelqu'un dise la bénédiction. Oh, que quelqu'un dise la bénédiction. La Bible dit: l'Éternel ordonnera. La version anglaise est encore mieux traduite, parce que la version anglaise dit: l'Éternel commandera. Ça veut dire qu'elle n'a pas le choix. Dès qu'elle sort de la bouche de Dieu, elle enfile ses baskets et puis elle commence à courir. Il dit: je dois t'attraper. Tu dis: laisse-moi, c'est vraiment là. Maintenant, je te remercie, je suis béni déjà, tu vois. Je suis désolé, Dieu a donné un ordre, je dois te courir après. Oh, que quelqu'un dise amen. Tu vois, la raison pour laquelle tu dis pas amen, c'est parce que ça t'arrive pas encore. Mais ça va changer au nom de Jésus. Deutéronome chapitre 28, verset 8, l'Éternel ordonnera à la bénédiction. La bénédiction de l'Éternel, elle ne nécessite aucun effort humain. Elle ne nécessite pas de faire de la gymnastique. Elle nécessite par contre juste une chose, la première, enfin juste deux choses. La première, elle nécessite juste que tu te focalises sur la source, c'est-à-dire sur Dieu. Et elle nécessite ensuite que tu t'attaches diligemment, assidûment à sa parole et que tu la serres dans ton cœur de peur de ne pas pécher, de peur de pécher contre toi. Que quelqu'un dise amen. La troisième chose, c'est que une bénédiction peut arriver à monsieur tout le monde, sans distinction de sexe, d'âge, de race, sans aucune exigence. Une bénédiction peut être donnée à n'importe qui. Mais la bénédiction de l'Éternel n'est jamais donnée à n'importe qui. La bénédiction de l'Éternel n'est accordée qu'au peuple de Dieu, aux enfants de Dieu, à ceux qui sont liés à Dieu par une alliance. Que quelqu'un dise alliance. La Bible dit que Dieu déverse sa pluie sur les bons et sur les méchants. Lorsqu'il pleut, il pleut sur toi, il pleut sur ta maison, il pleut aussi sur la maison d'à côté. Ça, c'est une bénédiction, mais ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Ne vous laissez pas tromper. Que quelqu'un dise amen. Un père, même lorsqu'il est généreux, peut faire des cadeaux à toutes sortes de personnes. Mais un père ne donne pas son héritage à tout le monde. Et je ne veux pas choquer quelqu'un, mais je tiens à te dire, mon ami, parce qu'il y a quelqu'un dans cette salle qui se dit: mais nous sommes tous enfants de Dieu. C'est faux. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 9 qu'il y a des enfants de Dieu et les enfants du diable. Ne sois pas vexé, s'il te plaît. Les enfants du diable, ce ne sont pas ceux dont les mamans ont couché avec le diable. C'est pas ça exactement. Donc ne te sens pas vexé en disant: quoi, tu oses dire que ma mère est une prostituée, qu'elle a couché avec Satan. C'est pas ce que j'ai dit. Les enfants du diable sont simplement ceux qui pratiquent le péché au quotidien. La Bible dit que les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ne pratiquent pas le péché. Ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas pécher, mais la Bible dit qu'ils ne pratiquent pas. Ce n'est pas chronique chez eux. Ils ne sont pas encore réconciliés avec Dieu. Donc, si tu es enfant du diable, à la fin de ce qui donne ta vie au Seigneur, et deviens enfant de Dieu. Quelqu'un dise amen. Alléluia. La bénédiction de l'Éternel n'est pas accordée à tout le monde. Elle est accordée à ceux qui sont liés à lui. Elle n'est pas accordée à ceux qui viennent à l'église. Regarde-moi bien. Elle n'est pas accordée à ceux qui vont aux réunions de prière. Elle est accordée à ceux qui sont liés à Dieu par la nouvelle alliance. L'alliance dans le sang de Jésus-Christ est le fondement. Les semaines prochaines, je vais développer tout ça. Aujourd'hui, je ne suis qu'à l'introduction. Amen. La quatrième chose qui concerne une bénédiction et la bénédiction, c'est que une bénédiction, même quand elle vient de l'Éternel, elle te soutient pour une saison de ta vie. Dans 2 Rois chapitre 7 que nous avons étudié la semaine dernière, à partir de laquelle nous avons tiré notre exhortation à partir de ce passage, dans 2 Rois chapitre 7, nous avons vu l'histoire de la femme du prophète, dans le mari qui était prophète et décédé. Cette femme, par une opération miraculeuse du Saint-Esprit, a expérimenté une provision temporaire. Elle a réussi avec une bénédiction, elle a réussi à payer ses dettes. Mais ce n'était pas la bénédiction de l'Éternel. c'était une bénédiction. Que quelqu'un dise une bénédiction. Une bénédiction est quelque chose que Dieu... je parle d'une bénédiction qui vient de l'Éternel. C'est une bénédiction que Dieu déverse sur ta vie pour une saison seulement. C'est pour ça qu'il y en a, ils ont crié à l'Éternel, ils étaient dans la galère. Ah, Seigneur, sors-moi de là. Dieu l'a sorti de là. Quelques mois après, quelques années après, il est retombé dedans. Ça, c'est parce que tu as expérimenté une bénédiction de l'Éternel. Mais moi, je veux la bénédiction. Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle te soutient pour toutes les saisons de la vie. Pourquoi? Parce qu'elle s'appuie sur une alliance avec Dieu. Oh, que quelqu'un dise alliance. Voyez-vous, une alliance, ce n'est pas un contrat. Une alliance, ce n'est pas un contrat. Un contrat n'est établi que dans un domaine déterminé, pour une période déterminée, et ce n'est pas pour le meilleur et pour le pire. C'est pour ça que lorsque dans une entreprise, tu signes un contrat de travail et que le pire vient, on te vire pour motif économique. Quelqu'un dit, pourquoi il parle de ça? Il sait qu'on m'a viré. Je ne parle pas de toi en particulier. Je ne parle pas de toi en particulier. J'essaie juste d'expliquer que dans un contrat, il n'y a pas... dans un contrat, il y a des restrictions. Dans une alliance, il n'y a pas de restrictions. On se promet fidélité dans les bons moments comme dans les mauvais. Dans la disette comme dans l'abondance. Dans la prospérité comme dans la pauvreté. Dans la maladie ou en bonne santé, nous sommes liés. Et la bénédiction de l'Éternel ne te soutient pas juste pour une saison. Elle te soutient pour toutes les saisons. Dans les phases de sécheresse, je serai avec toi. Quand tu passeras par les eaux, elles ne te submergeront pas. Quand tu traverseras le feu, il ne te brûlera pas. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Toutes les saisons, je suis là. Ça, c'est l'avantage d'avoir la bénédiction de l'Éternel. Le cinquième point, c'est que une bénédiction peut s'appliquer à une personne, à toi par exemple. Mais la bénédiction de l'Éternel ne touche pas que toi. La bénédiction de l'Éternel se déverse sur toute ta postérité. Toute ta postérité, les générations après toi. La bénédiction que Dieu a prononcée sur Abraham disait que toutes les familles de la terre seront bénies par ta postérité. Or, la Bible dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Par la foi en Jésus-Christ. Tu vois, tu ne dis pas Amen. Je sais pourquoi tu ne dis pas Amen. C'est parce que tu es en train de travailler là-dedans. C'est pour ça qu'il faut qu'on le dise. Parce qu'il y a des choses, tant que tu n'arrives pas à voir cette image à l'intérieur de toi, cette image ne peut pas devenir réalité de demain. Voilà pourquoi nous sommes en train de lutter avec la parole. Parce qu'il y a des gens qui paradoxalement essaient d'avoir quelque chose. Le problème, c'est que tu essaies de lutter, mais tu n'as pas la foi. Parce que la foi vient de ce que l'image que Dieu a de toi, elle est implantée dans ton esprit et tu le vois et tu es à l'aise. Il a dit, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Ça veut littéralement dire que ta postérité deviendra un centre de distribution, de faveur, de grâce, de richesse. Ta postérité, Abraham. La Bible dit, si tu as cru, alors tu as la postérité d'Abraham. Mais est-ce que je suis un centre de distribution? Un centre, parce que Dieu veut bénir l'humanité. Que quelqu'un dise Amen. Mais vous savez ce que dit ce passage? Ce passage dit, je ne parle pas de ta condition d'aujourd'hui, je parle de ce qu'il devrait être. Normalement, spirituellement, là, il n'y a pas de problème. Spirituellement, vous vous rendrez compte que la terre, la raison pour laquelle ce pays est préservé, la raison pour laquelle, des fois, ta famille est préservée, c'est juste parce qu'il y a la lumière quelque part qui brille. Que quelqu'un dise Amen. La raison pour laquelle ce pays n'est pas dévasté, c'est parce qu'il y a une lumière qui brille. L'église de Jésus-Christ, grâce à l'intercession de l'église, grâce aux prières des saints, il y a des fléaux, il y a des calamités, il y a des dévastations qui ne s'abattent pas sur le pays à cause de l'intercession de certaines personnes qui fléchissent leurs genoux, qui font exactement le travail que Abraham a fait. Si Dieu avait trouvé, Abraham est venu à Dieu, Abraham a dit, Dieu, tu es trop juste. Tu ne peux pas détruire Sodome et Gomorre à cause de... si tu trouves 50 juste à Sodome et Gomorre, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu dit non. Ok. Mais si tu trouves 45, est-ce que tu vas détruire la ville? Je dis, parce que c'est toi qui me le demande. Non, je ne détruirai pas. Bon, mais si tu en trouves 40, tu vas détruire? Je dis, ah, Abraham, je ne détruirai pas. Abraham arrive à 20. Bon, si tu trouves 20 justes dans la ville, 20 personnes qui sont justes, qui sont agréables à Dieu, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu dit, non, je ne détruirai pas. Bon, si tu en trouves 10, est-ce que tu détruiras la ville? Dieu dit, si j'en trouve 10, je ne détruirai pas. Ça, c'est le résultat de l'intercession. Mais le problème, c'est que Dieu n'a pas trouvé plus de 10 personnes justes à Sodome et Gomorre. C'est pour ça que Sodome et Gomorre ont été détruits. J'essaie juste de vous dire que par la qualité de l'intercession de l'Église, le pays est préservé. Le monde ne le sait pas. Mais est-ce que toi tu le sais? Il y a des gens dans ta famille, il y a des gens dans ma famille qui auraient dû mourir depuis longtemps. N'eût été mes prières et celles de mon épouse. Il y a des gens dans nos familles respectives qui auraient déjà été décimés depuis longtemps. Et c'est vrai pour ta famille. Et s'il y a des gens qui sont tout le temps en train de mourir dans ta famille, il est peut-être temps que tu te lèves et que tu commences à te tenir à la brèche et que tu dis, Satan, je ne te laisserai plus faire. Parce que la Bible dit que Dieu délivrera le coupable qui devra son salut à la pureté de tes mains. Si tes mains sont pures, Job chapitre 22 verset 31, si tes mains à toi sont pures, Dieu est capable de délivrer ceux qui sont dans le péché à cause de tes prières. Oh, que quelqu'un dise amen. Là, Dieu dit que normalement, je dois être un centre de distribution. Tant que je n'ai pas cette... Alors, au niveau spirituel, ça va. On se dit, ah, bon, nous allons prier, jeûner, Dieu va protéger. Le problème, c'est qu'au niveau... Alors, même au niveau social, au niveau économique, ça, là, on n'a pas cette mentalité encore. Un centre de distribution de richesse, ça veut dire que normalement, que quelqu'un dise normalement, tu devrais être un centre de distribution d'emploi. Je devrais être un centre de distribution d'emploi. J'emmène le thème sur un domaine sur lequel on est plus mal à l'aise. Tu vois? Mais pourquoi est-ce que je suis mal à l'aise? Pourquoi est-ce que quelqu'un ici est mal à l'aise avec ça? C'est pas parce que sa mentalité n'a pas encore assimilé ce que produit la bénédiction de l'Éternel. Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Nous devrions être des centres de distribution de faveur, des centres de distribution de grâce. Normalement, lorsqu'il y a une misère, lorsqu'il y a une crise quelque part, normalement, c'est le peuple de Dieu. Lorsque Dieu veut bénir, il passe toujours par un canal. C'est ce, le peuple de Dieu devrait être ce canal. C'est pour ça que dans Deutéronome chapitre 28, il dit, vous prêterez, mais vous n'emprunterez pas. Tu vois, la raison pour laquelle tu es aussi silencieux, je comprends. C'est parce que tu es tellement loin, ta condition d'aujourd'hui est tellement loin de cette vérité biblique. Il faut que Dieu endommage un peu à l'intérieur. Que quelqu'un reconnaisse, si quelqu'un reconnaît que c'est vrai, qu'il dit simplement c'est vrai. Je ne peux pas le manifester si je ne vois pas dans mon esprit. Normalement, nous devrions être ceux par lesquels les hôpitaux, à part les hôpitaux publics, les hôpitaux privés, ça devrait venir par les chrétiens. Des universités devraient venir par les chrétiens. Des centres de distribution. La mentalité n'est pas encore ajustée. Dis à ta voisin que Dieu nous aide. Sixièmement, une bénédiction de l'Éternel concerne un domaine précis de ta vie. Dans le cas de la femme dont le prophète était décédé, une bénédiction qu'elle a reçue a permis à cette femme d'être délivrée au niveau financier. Mais la bénédiction de l'Éternel englobe tous les domaines de ta vie. Bien-aimé, 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, ainsi que prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que quelqu'un dise tous égards. À tous égards, tu dois prospérer, ainsi que prospère l'état de ton âme. La bénédiction de l'Éternel touche tous les domaines de ta vie. Alors, si tu me dis que tu as un superbe travail, et que ton foyer est en crise, tu n'es pas en train d'expérimenter la bénédiction de l'Éternel. Parce qu'elle touche tous les domaines, relationnel, familial, spirituel, mental, émotionnel, physique. Elle touche tous les domaines. Que quelqu'un dise tout. Si tu me dis que tu as un superbe travail, mais que ta vie spirituelle est un naufrage, tu n'as pas d'intimité avec Dieu, donc tu n'as pas de paix. Tu sais, quand tu n'as pas l'intimité avec Dieu, c'est pas compliqué. Tu n'as pas la paix, tu n'as pas l'amour, tu n'as pas la joie, tu n'as pas le bonheur. Ta joie dépend des circonstances au lieu de dépendre de ta communion avec Dieu. Si tu as beaucoup d'argent, mais que tu n'as pas d'intimité avec Dieu qui te donne la paix, la joie, l'amour, tu n'expérimentes pas la bénédiction de l'Éternel. Ne te trompe surtout pas. J'habite dans une grande maison, mais tu as tout le temps des insomnies, que tu ne dors pas la nuit, tu es stressé, opprimé, comprimé, déprimé. Ce n'est pas la bénédiction de l'Éternel. Ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas. Parce que nous allons voir plus tard que la Bible dit qu'en Christ, Christ a été maudit à la croix afin que la bénédiction d'Abraham puisse arriver jusqu'à moi. Puisse trouver son accomplissement dans ma vie. Mais la vérité, c'est que tu peux avoir la bénédiction et puis ne pas l'activer. Et ça, on en parlera. Que quelqu'un dise amen. Ça ne veut pas dire que tu ne l'as pas reçu. Et c'est justement parce que la bénédiction de l'Éternel touche tous les domaines de ta vie. Que la Bible dit dans le Proverbe chapitre 10 au verset 22. Que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Il n'a pas dit une bénédiction. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne l'accompagne d'aucun chagrin. Lorsque c'est la bénédiction, il n'y a aucun chagrin. Lorsque c'est une bénédiction, quelqu'un me dira, alléluia, j'ai trouvé une femme. Ou j'ai trouvé un mari. Non, non, un homme, ça va dire, alléluia, j'ai trouvé une femme. Une femme, ça va être, alléluia, j'ai trouvé un mari. C'est une bénédiction. La question, c'est, est-ce que c'est la bénédiction? Parce qu'il y a des gens qui ont chanté comme ça au début, alléluia, j'ai trouvé un mari, j'ai trouvé une femme. Et puis après, ils ont dit, j'ai trouvé le diable dans ma maison. Satan est venu en personne chez moi, pasteur, le voilà, c'est lui. Que quelqu'un dise la bénédiction. Oh mon frère, ma soeur, je veux la bénédiction. La dernière chose que je veux dire par rapport à ce point, c'est que tu peux avoir, comme j'ai dit, la bénédiction de l'Éternel, mais n'est pas activée dans ta vie. Parce que la bénédiction de l'Éternel, elle peut être bloquée par plusieurs choses. C'est comme un tuyau qui est suspendu. C'est comme un réservoir qui est là, disponible, mais qui ne coule pas. Parce qu'il y a plusieurs choses qui bloquent cette bénédiction. Que quelqu'un dise amen. Avoir la bénédiction de l'Éternel ne signifie pas qu'il n'y a pas d'épreuve dans la vie. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Parce que toutes les personnes qui ont reçu la bénédiction de l'Éternel sont souvent et toujours, parce que ça c'est le lot de tous les êtres humains sur la terre, sont toujours passés par des saisons de sécheresse dans la vie. Les épreuves arrivent à tout le monde. Je n'ai pas dit que lorsque quelqu'un a la bénédiction, il n'a pas d'épreuve. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais tu verras que lorsque quelqu'un a la bénédiction de l'Éternel, même dans la prison où tu le mets, où il est réduit normalement à rien, le peu de choses qu'il fait prospère. Pourquoi? En réalité, c'est parce que déjà à l'intérieur de lui-même, il prospère. Que quelqu'un dise encore amen. Même lorsqu'il y a la famine, la bénédiction n'élimine pas la famine. La famine de l'époque, aujourd'hui, ça correspond simplement à la crise économique. Joseph avait le manteau de la bénédiction que Abraham avait transmis. Pardon, Joseph. Isaac avait la bénédiction que son père Abraham lui avait transmis. Mais Isaac a quand même connu la famine. Et il a voulu descendre en Égypte. Mais c'est parce qu'il n'avait pas activé. Lorsque tu as le manteau de la bénédiction, alors c'est quoi la bénédiction? Vous allez vous rendre compte que dans Genèse chapitre 1 au verset 28, la première chose que Dieu a donnée à l'être humain, la première chose que Dieu a déposée sur l'être humain, c'était la bénédiction. Genèse chapitre 1 verset 28. Puis Dieu les bénit et Dieu leur dit. Que quelqu'un dit, Dieu dit. La bénédiction, c'était le dit. C'était la parole qui sortait de la bouche de Dieu. Voilà pourquoi je dis, il est important de revenir. J'ai fait cette introduction pour vous dire, ne te laisse pas tromper. La bénédiction, ce n'est pas l'avoir. La bénédiction, c'est d'abord le dit. Ce n'est pas le je possède, c'est le dit. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu dit, la version dans Genèse chapitre 1 au verset 22, lorsque Dieu a créé les animaux, les poissons, la première chose, lorsque Dieu a créé les poissons, les animaux, la Bible dit, Dieu les bénit en disant. C'est en disant là que se trouve la bénédiction. Que quelqu'un dise amen. Dieu les bénit en disant. C'est quoi la bénédiction? La bénédiction, c'est une parole qui est prononcée par Dieu sur ce qu'il a créé, sur ce qu'il a engendré. Et cette parole est redoutable. Dieu les bénit et il dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez et dominez. Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? Le mot bénédiction ou bénir, le verbe bénir, ça veut simplement dire du bien. Que quelqu'un dise amen. Dieu a dit du bien à ton sujet. Il a dit du bien à mon sujet. Que quelqu'un dise amen. La malédiction, c'est de dire du mal. Vous devez comprendre une chose, l'esprit humain est conduit toujours par les paroles. Même quand tu n'ouvres pas la bouche, à l'intérieur, tu as une pensée, vrai ou faux? Qu'est-ce que c'est qu'une pensée? Une pensée, c'est une parole silencieuse. C'est-à-dire, c'est une parole qui te parle. Et en réalité, quand Dieu a mis Adam et Ève sur la terre, tant que Adam et Ève écoutaient le son de la voix de l'Éternel et posaient des pas au son de sa voix, ils étaient couverts de la bénédiction. Qu'est-ce que c'était la bénédiction? La bénédiction, c'est simplement une parole qui te revêt d'une capacité surnaturelle. D'une capacité surnaturelle qui vient au-dessus de tes capacités naturelles et qui te permet de produire des résultats extraordinaires. La bénédiction, en anglais, on dit empowerment to prosper. C'est un. Alors, je vous le dis quand même, à la Banque mondiale récemment, à New York, pour le mot empowerment, que quelqu'un dise empowerment, je ne vais pas vous faire des cours d'anglais, mais bon, japonais quand même, l'anglais. Empowerment, à la Banque mondiale, ils ont traduit par capacitation. Mais mon frère m'a donné la bonne traduction. C'est un renforcement de capacité. En fait, tu ne te rends pas compte, mais lorsque tu dis à ton voisin que Dieu te bénisse, tu es en train de lui dire que Dieu te renforce de capacité divine pour prospérer dans tous les domaines de ta vie. Oh mon Dieu! Que quelqu'un dise la bénédiction! La bénédiction, c'est une parole qui, lorsqu'elle est prononcée, te couvre d'un manteau de grâce et de faveur et de distinction qui fait que tôt ou tard, parce que ce n'est pas toujours au moment où tu penses que ça va se manifester, mais lorsque quelqu'un a la bénédiction de l'Éternel, pas une bénédiction, mais lorsque quelqu'un a la bénédiction, ça se voit. Je vais vous dire comment ça se voit. Il prospère à l'intérieur. Il est toujours rempli de paix, toujours rempli de joie. Il a confiance en lui. Même quand il n'a pas d'argent dans la poche, je t'assure, il est confiant. Il regarde vers l'avenir avec espoir. Il regarde vers le haut avec gratitude. Il regarde en arrière avec reconnaissance. Il n'est pas limité, emprisonné. Il n'est pas prisonnier de son passé. Il est libéré de l'emprise de son passé. Il regarde vers le futur avec sourire et dit, je sais que qu'importe ce qu'a été mon passé hier, je sais que mes lendemains seront radieux. Ah, parce que le manteau de la bénédiction de l'Éternel est sur moi. Et tu comprends, si j'ai compris que je suis béni de la bénédiction de l'Éternel, tu comprends, je ne cours pas après cette bénédiction, je cours juste après le cœur de Dieu et après sa parole. Parce que chaque fois que je pose, Adam posait un pied, chaque fois qu'il posait, il faisait des pas au son de la voix de l'Éternel. Il était recouvert de ce manteau de bénédiction qui lui donnait la capacité de faire ce que Dieu lui demandait de faire. Parce que tu vois, lorsque Dieu créait la terre et qu'il te dit, porte du fruit, multiplie-toi, assujetti, remplis, fais en sorte que toute la terre te serve, fais en sorte que tout l'univers que j'ai créé, tout ce qui se trouve sur la terre soit à ton service et domine-moi cette terre. Tu comprends qu'il faut vraiment un manteau, une grâce spéciale. Parce que humainement parlant, ce n'est pas possible. Que quelqu'un dise amen. Ce n'est pas possible. Alors Dieu prononce une parole de bénédiction. Et le but de la bénédiction n'était qu'un tremplin pour emmener à la manifestation de la gloire de Dieu. C'était le but ultime. Ésaïe 43, verset 7. Le peuple que je me suis formé pour ma gloire publiera mes louanges. Le but de la bénédiction, c'est de manifester la gloire. La bénédiction, c'est une parole. Que quelqu'un dise une parole. Une parole, c'est une semence. Que quelqu'un dise semence. Une semence, c'est comme une graine, tu vois. Une parole, c'est comme une graine, c'est comme une semence. Elle est toute petite et des fois, elle est insignifiante. Et lorsque la bénédiction te couvre, lorsqu'elle revêt ta vie, c'est comme une petite graine. La parole plantée, c'est comme une petite graine. Mais le but, c'est que cette graine porte du fruit. Si j'essaie d'expliquer ça, je vais essayer d'expliquer ça calmement. En fait, la gloire... Comment dire ça, Seigneur? Lorsque la graine, lorsque la semence ou la graine du pommier, lorsque la graine du pommier produit des pommes, alors on dit que les pommes sont la manifestation de la gloire de la graine. Autrement dit, la semence, c'est ce qui a l'air insignifiant. Mais lorsque la semence est manifestée, lorsqu'elle produit le fruit qu'elle aurait dû produire, c'est ce qu'on appelle la gloire. Et vous allez vous rendre compte dans cette série qu'on fera, je ne vais pas développer ça aujourd'hui, que le but de la manifestation, c'est d'amener à la, le but, pardon, de la bénédiction, c'est d'amener à la manifestation de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est quoi? Dans ce contexte, c'est lorsque la parole de Dieu devient chair. Lorsque la parole que Dieu a prononcée devient complètement manifesté, conformément à ce que Dieu avait prononcé. Là, c'est la gloire. Mais il n'y a pas la gloire sans la bénédiction. Et vous allez vous rendre compte que la bénédiction, les fils de Isaac, Ésaü et Jacob, ne se sont pas battus pour des biens, pour des maisons, pour des troupeaux. Ils ne se sont pas battus pour des comptes bancaires. La Bible dit, quand vous lisez Genèse chapitre 27, versets 35 à 38, la Bible dit que la chose pour laquelle Jacob a trompé Ésaü, c'était pour obtenir la bénédiction. Et lorsque la bénédiction de l'Éternel a été prononcée sur la vie de Jacob, il ne restait plus rien. Et la bénédiction, c'était juste une parole. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Le fait de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur a changé ma vie. J'étais déjà changé, mais là, je crois que je suis changé maintenant de gloire en gloire. Parce que le fait de comprendre, il y a des choses que j'ai compris qui m'ont ébloui. Il dit, ta postérité possédera les portes de ses ennemis. Mais ça veut dire quoi? Waouh! Oh, les amis, si tu comprends ça. Oh, que quelqu'un dise amen. Ils se sont battus, pas pour une bénédiction. Ils se sont battus pour la bénédiction. Que quelqu'un dise amen. Et vous allez vous rendre compte que Satan était tellement subtil que la première, Satan savait, la seule chose qu'il avait à faire pour semer la confusion dans la création de Dieu, la seule chose que Satan avait à faire, et que malheureusement il a réussi, mais Dieu n'est jamais pris au dépourvu. La seule chose que Satan savait qu'il devait faire, c'était de polluer la parole de l'Éternel sur laquelle Adam et Ève marchaient. Et comment il a fait? Il a introduit le doute. Pourquoi? Pour chasser cette parole. Parce que cette parole mettait sur Adam et Ève un manteau extraordinaire qui les faisait prospérer dans tout ce qu'ils faisaient. Et de même qu'il a fait, de ce qu'il a fait hier, Satan le refait encore aujourd'hui. À chaque fois, il revient. Comment vient la malédiction? Parce que lorsque vous lisez la chute de Adam et Ève, Adam et Ève n'ont pas été maudits par Dieu. Le sol a été maudit par Dieu. J'ai entendu des gens dire, Dieu a maudit Adam et Ève. Dieu ne peut pas maudire. Non, Dieu n'a jamais maudit Adam et Ève. Ce qui s'est passé, c'est que Adam et Ève ont attiré la malédiction. Dans le mot malédiction, il y a maldit. Ou encore, on va dire, le dit, c'est la parole. Que quelqu'un dise la parole. Mauvaise parole. Quelle était cette mauvaise parole? C'était la parole qu'ils ont écoutée lorsqu'ils ont écouté le doute que le diable a mis à l'intérieur. Dieu a-t-il réellement dit ceci? Et c'est là qu'il a introduit le raisonnement charnel. La malédiction est venue sur l'être humain. Pas parce que Dieu l'a prononcé, mais juste parce que Adam et Ève, qui étaient censés marcher au son de la voix de Dieu, ont écouté un autre son. Là, tant qu'ils opèrent et ils fonctionnent avec la voix de l'Éternel qui les conduit, qui les instruit, qui leur montre la voie à suivre, qui les conseille, qui a le regard sur eux, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'ils se détournent de cette voie, la malédiction entre. Et la bénédiction que Dieu avait libérée, bloquée. Elle ne peut plus couler. Elle ne peut plus être manifestée. Le but de cet enseignement, c'est d'abord de challenger, changer notre mentalité. Et d'identifier les choses qui ont bloqué le flux de la bénédiction de l'Éternel dans ta vie. La Bible dit qu'elle enrichit, elle ne s'accompagne d'aucun chagrin. Lorsque Adam et Ève ont péché, la malédiction est entrée sur la terre. Ce n'était pas la pensée de Dieu. Et vous allez vous rendre compte que Dieu est tellement bon, que Dieu a tout fait pour réintroduire sur la terre la bénédiction. Parce que Dieu savait que sans la bénédiction, l'homme ne peut pas manifester sa gloire. Or, la Bible dit que Christ en nous est l'espérance de la gloire. Ça veut littéralement dire que Christ est la seule personne par laquelle on peut de nouveau retoucher la gloire de Dieu, le plan parfait de Dieu pour l'humanité, pour l'espèce humaine, pour toi et pour moi. Et Satan est rusé. Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est d'emmener une autre parole, mais qui n'était pas la parole de Dieu. Ah, que quelqu'un dise amen. Et vous allez vous rendre compte que Dieu est tellement bon qu'après que Adam ait introduit la malédiction, après que Adam ait péché, la malédiction est entrée, la gloire est partie. Et Dieu, pour rétablir la bénédiction et la gloire, était obligé de chercher de nouveau. Parce que le premier Adam a échoué. En attendant la manifestation du dernier Adam, la postérité de la femme qui lui écrasera la tête, il le savait. En attendant la manifestation de la postérité de la femme, le diable a tout fait Alors la Bible dit dans Genèse chapitre 6 que l'Éternel s'est même repenti d'avoir fait l'être humain sur la terre parce qu'il a vu que l'homme devenait de plus en plus méchant. L'Éternel était désolé. La Bible dit qu'ils sont arrivés au point d'abomination même où les fils de Dieu, les anges déchus, sont allés coucher avec des femmes et ils ont engendré des géants. Ce sont eux les géants de l'Antiquité. La terre était corrompue. Dieu a décidé de dévaster, de ratisser, d'exterminer toute la terre, de tout recommencer à zéro. Il a sauvegardé une seule personne avec sa famille, c'était Noé. Et la première chose que Dieu a dite, la première chose que Dieu a déposée sur Noé, après l'avoir sorti du déluge, lorsqu'il est sorti de l'arche et qu'il a survécu au déluge, la première chose que Dieu a redéposée sur Noé, c'est Genèse chapitre 9, versets 1 à 2. Dieu les bénit. Et vous allez voir que cette bénédiction qui était sur Noé a coulé sur Shem. Parce que Noé a dit, béni soit Shem. C'est Shem ou Sem? La version anglaise, Sem. Ah, excusez-moi, je mélange l'anglais et le français. Béni soit Sem. Et c'est de Sem qu'est venu Abraham. Et c'est de Abraham qu'est venue la bénédiction. Et c'est de Abraham qu'est venu Christ. Et c'est à partir de Christ que la bénédiction s'est répandue sur tous ceux qui croient. Cette bénédiction est extraordinaire. Tu n'as pas à faire d'effort. Tu as juste à rechercher Dieu, à comprendre et à activer. Ta vie ne peut pas être la même. Ta condition d'aujourd'hui ne peut pas devenir ton futur permanent. Ce n'est pas possible. Tu dois changer, tu vas changer parce que l'agneau a payé le prix. Pour que la bénédiction, il a été maudit. Afin que la bénédiction, j'avais pas compris à l'époque, j'avais pas compris ce qu'il y avait dans la bénédiction. Je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais depuis que j'ai compris ce qu'il y a dedans, j'ai compris qu'en réalité Dieu a tout mis. Dieu ne fait pas des discours. Dieu prononce une parole. Et cette parole, quand elle te touche, oh mon Dieu, elle te revêt, elle renforce tes capacités dans tous les domaines. Et tu deviens un être surnaturel. Parce que tu as une capacité surnaturelle au-dessus de tes capacités naturelles. Et cette capacité surnaturelle fait de toi quelqu'un de différent et d'extraordinaire. Et tant que ta mentalité ne l'a pas compris, tant que tu n'as pas intégré, ça ne peut pas se manifester. Voilà pourquoi Dieu dit, il faut renouveler ta mentalité. Inclinons la tête et prions. Nous avons fait l'introduction. Nous allons élever la voix juste pour dire, Seigneur, illumine les yeux de mon cœur. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels tu sens que tu es en train de lutter. Il y a des choses que tu veux, mais tu n'as pas de fondement pour ça. Il y a des choses que tu espères, mais ta mentalité n'a pas été renouvelée. Dieu ne peut rien faire tant que tu n'as pas la foi. Et la foi, ce n'est pas juste le fait de savoir que Dieu existe. On a dit que la foi, c'est la capacité de voir ce que Dieu voit, d'embrasser ce que Dieu embrasse, d'acquérir la pensée de Dieu. Que l'image que tu as de mon futur soit imprimée à l'intérieur de moi. Que l'image que tu as de ma destinée soit imprimée à l'intérieur de moi. Que tel tu vois qu'ainsi je vois. Tel, Seigneur, tu es qu'ainsi je sois. Je prie que tu illumines les yeux de nos cœurs. Afin que nous comprenions la bénédiction. Et que nous ne restions plus à des conditions où nous nous satisfaisons d'une bénédiction de ta part. Non, Père, nous voulons la bénédiction de l'Éternel qui coule sur les générations futures, qui affecte pas seulement notre histoire, mais toute notre descendance. Nous sommes cette génération à partir de laquelle les flux de malédiction héréditaire provenant de la désobéissance de nos parents et de notre propre désobéissance s'arrêtent dans le nom de Jésus. Il faut qu'à partir de moi, comment soit initié un nouveau cycle de bénédiction qui atteindra plus de 1000 générations et d'ici là tu seras déjà revenu. Seigneur, accorde-moi la grâce de comprendre, accorde-moi la grâce de m'ajuster. Je te demande, Père, s'il te plaît, renouvelle notre intelligence, délivre-nous de cette mentalité de se contenter juste d'une bénédiction et écraser les autres et se comparer toujours aux autres. Parce que je reconnais que lorsque quelqu'un a la bénédiction, il sait qu'elle ne s'arrêtera pas et qu'elle continuera de couler. Alors il n'éprouve pas le besoin d'écraser les autres. Il ne se sent pas menacé par l'impact et la réussite des autres. Il est confiant en l'Éternel parce qu'il sait qu'il est obligé de porter du fruit en toute saison. Même dans les saisons de sécheresse, il y a quand même du fruit qui sort de ma vie. Voilà pourquoi, en regardant à ce que tu fais, je serai reconnaissante. Je ne me sentirai pas menacée par mon voisin ou par l'église d'en face ou par la réussite professionnelle ou conjugale de quelqu'un d'autre. Je te bénis parce que si je peux comprendre, Seigneur, si tu illumines les yeux de mon cœur et que je peux comprendre que j'ai sur moi le manteau de la bénédiction, pas une, mais la bénédiction. Seigneur, accorde-moi ce moment de comprendre et de la laisser couler. Ne me laisse pas perdre du temps en train de courir, de forcer les portes, de forcer les gens, de forcer les hommes, de forcer les femmes. Non, Seigneur. Parce qu'en réalité, la bénédiction de l'Éternel, tu as dit que tu commanderas, tu donneras un ordre à la bénédiction et tu lui diras, sois avec lui, sois avec elle. Accompagne-le, accompagne-la dans toutes ses entreprises. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de voir ma mentalité renouvelée, transformée, Seigneur. Accorde-moi la grâce de sortir de cette mentalité de limitation, d'insécurité, de peur, de doute, où ma vie est motivé par la peur, peur de manquer, peur de voir les autres me dépasser, peur de voir les autres, peur de ne pas y arriver. Non, Seigneur, la mentalité de la bénédiction de l'Éternel est une autre mentalité que tu dois nous communiquer. Le monde francophone, le monde entier attend de voir notre manifestation. Seigneur, déchire le voile de l'ignorance, déchire le voile de la tradition qui avait modifié ma compréhension des choses, des concepts du royaume de Dieu. Déchire ce voile. Allez, introduis-moi dans la révélation, Seigneur. Oh, que assis à la maison, en fermant les yeux, je puisse moi aussi voir, Seigneur. Parce que si je peux me voir, je peux me mouvoir. Si je peux voir, je peux concevoir. Si je peux concevoir, je peux croire. Si je peux croire, je peux recevoir. Accorde-moi la grâce, Seigneur, d'être changé à l'intérieur de moi. Et je te prie pour la suite de cette série. Je te demande, nous te demandons, Seigneur, illumine les yeux de nos cœurs. Bombarde ta parole, rends-la simple et explicite, Seigneur, afin que chacun de nous comprenne, Seigneur, et que le monde, oh mon Dieu, Seigneur, qu'un manteau extraordinaire soit activé. Là où la bénédiction avait déjà été libérée, elle avait été bloquée par nous-mêmes, parce que nous avions cessé d'écouter et de poser des pas au son de la voix de l'Éternel. Seigneur, là où nous avions écouté, pas la voix de l'Éternel, mais la voix de l'ennemi, de l'étranger. Ramène-nous sur le chemin de la voix, de l'obéissance à la voix de l'Éternel, afin que la bénédiction qui avait été bloquée, suspendue, mais pas enlevée, mais simplement suspendue, afin qu'elle soit réactivée, Seigneur. Il en va de notre descendance. Il en va de la crédibilité de l'Évangile dans nos vies, Seigneur. Nous te supplions, Père. Suppliant. Tu as commencé une œuvre aujourd'hui. Je t'en supplie. Rends-la parfaite, Seigneur. Que des chaînes à l'intérieur de nous tombent. Que des clichés soient renversés. Qu'il y ait une mutinerie à l'intérieur de nous. Et qu'un cri, Seigneur, soit retentisse du profond de notre cœur. Et ce cri doit dire, je dois manifester ta gloire. Et je ne peux pas manifester ta gloire si je n'ai pas réactivé la bénédiction. Je ne chercherai plus un homme. Je ne chercherai plus une femme. Je chercherai l'Éternel. Afin que tu libères dans ma vie, Seigneur, la parole de bénédiction que tu as déjà prononcée en Christ, Seigneur. Mais je te chercherai afin que tu mettes à nu tout ce qui s'y oppose. Révèle-nous ce qu'il y a à l'intérieur et transforme notre mentalité. Et là, il y avait de la résistance à cause de la parole de malédiction dans laquelle nous avons grandi, l'opinion des hommes et des femmes, des parents, Seigneur, qui ne croyaient, qui ne voyaient pas en nous ce que toi tu voyais et qui ont influencé notre perception du monde et de nous-mêmes. Seigneur, que toutes ces paroles de malédiction qui ont engendré la malédiction en réalité, Seigneur, que ces paroles soient renversées, que ton peuple revienne à toi et qu'une armée d'ambassadeurs de Christ, une armée de tueurs de géants, oui, une armée de conquérants des promesses, une armée de fils et d'enfants, de fils, c'est-à-dire de descendants, obéissant à l'écoute de la voix de l'Éternel. Qu'une armée ainsi se lève Et pour cette armée, tu commanderas à la bénédiction. Et tu diras, poursuis-le, poursuis-la. Et alors, nous n'userons plus de subterfuges, d'artifices diaboliques ou charnels pour voir des desseins se manifester dans nos vies. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de comprendre et d'avoir l'intelligence renouvelée. Puisque tu as commencé cette œuvre aujourd'hui, rends-la parfaite par la puissance de ton esprit. Et qu'à jamais ma vie ne soit plus jamais la même, Seigneur, dans le nom de Jésus. À toi qui as commencé cette belle œuvre et qui est fidèle pour l'achever, soit la gloire, la louange et l'honneur, dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur l'église ICC Impact Christian Center, rendez-vous sur notre site internet www.icc-paris.org. Pour commander d'autres produits enregistrés à ICC, veuillez vous rendre sur le site www.metanoia-vie.com ou téléphonez-nous au 33 1 46 70 52 31. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.